Interview.
2 jours.
Bonjour, ici Erdua et c'est l'heure de l'interview avec au studio Marion Perrier. Bonjour.
Bonjour.
Marion, vous êtes animatrice au sein du dispositif Cohabitation Solidaire au sein de l'ESCDD et avec vous Aurélie Charras. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes, vous, animatrice de territoire et aussi salariée de l'espace social et culturel du DIWA. Toutes deux, vous êtes ici pour nous apporter la nouvelle de 2 rendez-vous à venir. Celui du 28 mars, ça se passera à la salle communautaire de l'ESCDD et qui s'intitule Cohabitation. Dans le DIWA, quels freins avons-nous à vivre ensemble? Donc la question est posée et pour cela il y aura une rencontre débat. Vous nous expliquerez un peu la teneur et les personnes qui interviendront. Et puis il y a aussi ce dispositif autour de la cohabitation solidaire dont on va parler. Et puis il y a aussi le renouvellement du projet social. Ça, c'est aussi une parole que vous souhaitez annoncer. Alors avant tout, l'espace social social et culturel du DIWA, comment se porte-t-il? Et au lendemain, ça j'ai envie de la poser la question quand même, et au lendemain de ce scrutin, est-ce que vous avez
oui,
certaines optiques différentes?
Non, mais on va voir comment on va pouvoir travailler avec la nouvelle équipe. Et voilà, l'espace social existe depuis bien une vingtaine d'années. Il y avait une MJC avant qui est devenue un centre social. Et voilà, et on porte, du coup, c'est un peu la maison des habitants. Donc on travaille aussi forcément avec les élus, la ville de Die. On est situé à Die et voilà. On espère que ça va bien se passer, bien sûr. Et la question du social, en fait, sur le territoire, elle est importante et elle est portée par beaucoup d'élus et d'habitants. Donc, du coup, l'espace social, cette année, en fait, tous les 4 ans et bientôt tous les 5 ans, on retourne vers la population pour questionner un peu les habitants suite à... en fait, le renouvellement de notre projet social. En fait, on a un agrément de la CAF qui est renouvelé chaque année, tous les 4 et 5 ans, pardon. Et pour travailler sur ce projet social, on a un temps de bilan, un temps de questionnement des habitants sur les sujets qui les préoccupent, dont le logement dont on va parler. Et après cette phase d'enquête et tout ça, on fait une analyse des résultats et on propose un nouveau projet social sur lequel on va s'inscrire et voilà. Et l'étape du bilan est bien commencée et se termine là. Et là, on va commencer début avril et on va se donner 2-3 mois. Toutes les structures d'espace de vie sociale. Donc, il y a le centre social, mais aussi il y a les espaces de vie sociale, Val-de-Quin, le TIS dans la vallée de la Roanne, la Corderie, les Lucioles à Luz-la-Croix-Haute et le 101.7. Et toutes ces structures qui portent un peu la vie sociale du territoire, en fait, on va venir questionner les habitants. Et on va avoir un deuxième rendez-vous samedi 28 mars, justement, sur la question plus précise du logement.
Voilà, donc un aspect, je me souviens du précédent... projet social.
Oui.
Effectivement, ça avait pris beaucoup de moments avec toutes les équipes de chaque secteur. Ça permet quoi aussi? De confrontation d'idées, le constat de territoire également. Et est-ce que c'est exclusivement les personnes qui sont au sein de ces structures qui se retrouvent? Ou alors il y a aussi le monde associatif qui peut être sollicité?
Ça concerne tous les habitants. En fait, ce qui nous intéresse, c'est vraiment de ressortir les besoins de tous les habitants du territoire, même si elles n'ont pas forcément passé la porte de l'espace social ou d'une autre association. Ce qui nous intéresse vraiment, c'est d'être au plus près. Et forcément, vu qu'on les questionne tous les 4-5 ans, ça évolue, en fait, notre société, elle évolue, les besoins, des fois, voilà, évoluent sur la question du logement, sur la question de la mobilité, voilà, sur tout ce qui concerne nos vies et nos conditions de vie.
Je reviens un peu aussi sur certains quartiers de Die, notamment vers Cocos. Est-ce qu'il existe aussi peut-être une structure qui soit un peu l'annexe de l'espace social et culturel du Diois?
Oui, mais il y a des associations qui portent en fait et qui participent à la vie sociale et tout ça. Et on essaye de travailler ensemble, oui, en complémentarité.
Marion, vous-même donc êtes dans cette animation de la cohabitation solidaire. Alors, on peut peut-être définir ce terme, ce qu'il peut laisser penser.
Alors, la cohabitation solidaire, c'est un dispositif qui est donc porté par l'espace social et qui permet de mettre en relation des hébergeurs qui sont des habitants du territoire. Donc, il y en a un peu plus à Die, mais ça peut être sur tout le territoire et qui vont mettre à disposition une chambre dans leur habitation au profit d'un hébergé qui va être une personne qui est en recherche de logement pour une courte période. Et donc, le dispositif permet cette mise en lien et permet de pouvoir répondre au manque de logement, au cruel manque de logement qu'il y a sur Die pour des personnes qui vont venir pour un temps défini dans le cadre d'un projet professionnel à Die.
Est-ce que cette proposition du 28 mars permet justement d'avancer sur cette notion de solidarité et de la cohabitation et de quelle manière cela va se dérouler?
Ce qu'on propose samedi, c'est ça rentre dans deux événements assez importants sur le territoire. Il y a premièrement le festival Friction du réel du théâtre de Die qui a pour thème cette année « Cohabitons ». Donc on s'est dit que c'était vraiment très à propos de pouvoir parler de ce dispositif qui existe sur le territoire et qui reste méconnu. Et d'autre part, il va y avoir la semaine nationale de la cohabitation intergénérationnelle et solidaire et qui va démarrer vendredi. Et l'idée, c'était de pouvoir aussi promouvoir ce qui existe à Die et sur le territoire dans le cadre de cet événement qu'on propose et qu'on a choisi d'animer sous l'angle des freins à vivre ensemble. Puisque y a des personnes qui n'osent pas, qui ont des grandes maisons et qui n'osent pas proposer d'accueillir une personne parce que ça fait peur d'habiter ensemble, qu'il y a des freins. Et du coup, on voulait essayer de pouvoir parler de ça samedi.
Il y a peut-être aussi l'aspect fiscal. Est-ce que cela empiète aussi sur cette crainte de certains propriétaires de se retrouver assujettis ou non? Quelles sont les inquiétudes qui émanent de ces propriétaires qui ne veulent pas forcément partager un lieu?
Alors, ce n'est pas forcément des propriétaires, ça peut aussi être des locataires. Le dispositif, il est encadré. Et donc, de toute façon, si on respecte le cadre fiscal, justement, les propriétaires où les locataires ne sont pas, n'ont pas à déclarer les revenus qu'ils pourraient percevoir en accueillant la personne et qui sont modestes. Voilà, c'est des revenus modestes. C'est des participations aux charges qui sont demandées aux personnes qui sont accueillies. Donc, les propriétaires ou locataires n'ont pas l'obligation de déclarer ces sommes-là. Mais les freins, ils sont plutôt sur le vivre ensemble, sur le fait de partager le quotidien, le fait d'avoir quelqu'un d'inconnu chez eux, et qui peut justement poser des questions tout à fait légitimes et normales de comment je vais faire avec cette personne qui vient m'envahir. Ça peut être ça la crainte.
Je me souviens avoir reçu il y a quelques années déjà cette notion d'accueil chez les personnes âgées, justement pour loger, mais aussi d'être assisté en échange. Il y a toutes sortes de propositions qui peuvent être présentées sur ce jour-là. Du 28 mars.
C'est ça. En fait, la cohabitation solidaire, elle se base plutôt sur des principes solidaires et d'échange de services. Donc effectivement, si c'est une personne âgée qui est un petit peu isolé dans sa grande maison et qui souhaite recevoir quelqu'un, ça peut être en échange de services. Donc les services ne peuvent pas se substituer à des services rendus par des professionnels comme des auxiliaires de vie ou des jardiniers s'il s'agit de tondre la pelouse ou les arbres, de tailler les arbres. Mais ça peut être des échanges de services comme ne pas être seul, rompre l'isolement, pouvoir avoir une aide pour faire des courses ou des choses comme ça de manière assez ponctuelle. Et du coup, c'est souvent ça qui est mis en avant dans cet échange. C'est du coup l'échange de services qui peut être demandé.
Comment s'organisera donc cette rencontre-débat ? Il y aura la présence de qui ? Et quelles questions pourra-t-on poser et les réponses que l'on pourrait entendre ?
Il y aura un temps de présentation du dispositif avec aussi des témoignages en fait, de personnes qui accueillent et voilà comment elles sont rentrées dans le dispositif, comment elles vivent ça et voilà. Et il y aura un temps de débat aussi avec ce qui est important pour nous, c'est de recueillir un peu aussi la parole en fait du public et de voir et de connaître et de comprendre un peu mieux justement les freins, ce que disait Marion, de voir qu'est-ce qui fait qu'ils ne sont pas encore rentrés dans le dispositif, pour essayer d'avancer sur le sujet et voilà, la question du logement, c'est quand même un sujet important en fait sur le territoire et voilà, ça peut être la solution. Peut-être même qu'il y a des gens qui ne connaissent pas du tout et on espère que ça pourra les faire venir en fait. Et voilà, oui.
Je reviens un peu puisque depuis quelques années, ce dispositif était en proposition. Est-ce qu'il y a eu des résultats concrets et quel retour en avez-vous eu ?
Oui, il y a eu bien sûr des résultats concrets. Moi, j'avais recueilli la parole des hébergeurs et des hébergés de l'an dernier pour savoir justement qu'est-ce qui pouvait les attirer dans cette cohabitation. Et c'était plutôt positif. D'ailleurs, c'était que positif parce que les fois où ça s'est mal passé, j'ai pas interviewé les gens. On met en avant quand ça se passe bien et c'est ce qui, la plupart du temps, ça se passe très bien et les gens gagnent en échange humain. La plupart des hébergés, qui bénéficient de ce dispositif, ce sont des stagiaires qui viennent faire des formations dans les dispositifs type Greta ou Aplomb ou CFPPA et qui vont être là pour une courte période. Donc en fait, c'est pas des cohabitations qui sont longues, qui sont dans le DIY. Il y en a certaines qui sont plus longues, mais la plupart, ce sont des cohabitations assez courte, sur 6 semaines maximum. Ce qui fait qu'en fait, c'est surtout du positif qu'on peut en tirer parce qu'on ne s'engage pas sur une très longue période et du coup, il y a moins de risques d'avoir que ça ne se passe pas bien dans la tête des gens qui accueillent.
Un accueil des personnes en formation sur le territoire, ça c'est aussi une des possibilités qu'avait ce dispositif à proposer.
Oui, c'est ça. La plupart des demandes, ce sont celles-là. C'est pour ça que les hébergeurs ne sont pas forcément des personnes âgées. Ça peut être n'importe qui est OK pour pouvoir accueillir quelqu'un chez lui dans le cadre de ce dispositif qui est quand même assez sécurisant puisque il est cadré, en fait, et que si jamais il y a besoin d'une médiation, elle peut être faite. Il y a des signatures de contrat. Donc, c'est quand même un dispositif cadré. On peut oser accueillir parce qu'on sait qu'on est dans un dispositif rassurant.
Alors, quels sont les freins qui peuvent encore subvenir pour vivre ensemble alors ? Et est-ce que cela vous a mis peut-être une évidence que vous pourriez nous expliquer ?
La peur d'être envahi, moi, c'est ça que j'entends. J'aimerais bien. Il y a des gens qui ont des très grandes maisons, mais déjà qui n'ont pas. Ils ont besoin, il faut avoir confiance pour accueillir quelqu'un chez soi. Et peut-être que cette confiance, les personnes ne l'ont pas de manière naturelle et qu'il faut quand même expliquer le dispositif pour que justement le fait d'accueillir quelqu'un, ça vienne pas. Ce soit dans un. Ce cadre-là permet peut-être plus la confiance. Et puis, partager le quotidien, quand on est habitué à vivre seul, c'est pas rien. Donc, ça s'apprend. Et peut-être qu'en parlant des freins, ça permettra de les lever.
Justement, vous, Marion, vous étiez, en tant qu'animatrice, chargée d'aller faire le bilan un peu de ces accueils chez le locataire. Et vous aviez aussi cette, peut-être une mission de pédagogie à opérer auprès de certains locataires ou...
J'ai pas eu besoin, ça s'est bien passé.
Non, parce que je reviens sur le propos où vous disiez il y a une peur. Oui. Est-ce qu'il y a un peu un travail de conviction peut-être à apporter ?
Moi, j'aimerais bien que ce travail de conviction il soit fait par les hébergeurs, parce qu'on a quelques hébergeurs réguliers à Die qui, du coup, sont les mieux placés pour en parler. Et c'est pour ça qu'il y en a un ou deux qui seront présents samedi pour pouvoir vraiment parler de leur expérience et peut-être donner envie à ceux qui n'osent pas de pouvoir accueillir des personnes.
Est-ce qu'il y a un retour aussi bénéfique ? Est-ce que ça permet justement cette relation humaine de ramener un peu aussi à se sentir moins seul, en tout cas ?
Ça peut, oui. Ça peut être ça, la demande. Mais il y a peu de personnes âgées isolées qui sont dans ce dispositif sur le territoire de Die. Il y en a beaucoup plus sur le reste du territoire. Autour de Cré, Valence, il y a beaucoup plus de personnes âgées qui, du coup, accueillent des jeunes sur une période un peu plus longue. À Die, il n'y en a pas beaucoup. Donc, l'idée, c'est aussi de pouvoir parler de ce dispositif pour que les personnes puissent oser y participer et ouvrir leurs portes.
Ma pensée n'était pas forcément pour les personnes âgées. Hein. Je parle de toute génération qui serait à accueillir. Est-ce qu'il y a une méfiance ? C'est ça, je voulais savoir si il y avait un côté où vous interveniez pour convaincre un peu ces personnes à accueillir aussi.
Si elles expriment leur réticence, bien sûr qu'on peut essayer de leur expliquer vraiment quels sont les risques, c'est-à-dire qu'il n'y en a pas en fait des risques puisqu'on ne risque rien à accueillir dans le cadre d'un dispositif. Mais si je parlais des personnes âgées, c'est parce que le dispositif s'appelle cohabitation intergénérationnelle et solidaire et qu'à la base, ce dispositif, il est né pour que justement les personnes âgées isolées qui ont besoin de compagnie, qui se sentent seules, qui ont des fois des familles assez éloignées, puissent avoir une compagnie et une aide un petit peu au quotidien. Donc, c'est moins le cas sur Die. C'est pour ça que je parlais des personnes âgées. Il y en a moins sur Die qui ouvrent leurs portes. Mais normalement, ce dispositif, il est fait pour ces personnes-là.
Là, on a abordé la cohabitation solidaire. On revient un peu sur d'autres choses. Par exemple, est-ce qu'on peut reparler du renouvellement du projet social ? Et est-ce qu'il y aura, par rapport à cette organisation, une présence peut-être du public aussi qui pourrait être intéressé à ces réunions ?
Oui, en fait, pour le renouvellement du projet social, de l'espace social et des espaces de vie sociale sur le territoire, en fait, on va profiter de plusieurs événements. On a déjà fait une soirée, en fait, jeudi dernier au cinéma avec la troupe du théâtre d'impro.
D'Alain Curté,
voilà. L'idée, c'était de se saisir, en fait, un peu de tous les événements qu'il peut y avoir sur le territoire pour aller interroger les gens, parce que c'est pas forcément évident. On connaît bien les personnes qui viennent à l'espace social, mais aller questionner les habitants, il faut aller les interroger sur le marché, lors d'événements, de soirées, lors de conférences qu'on va organiser, comme cette conférence qu'on organise samedi là, sur la cohabitation solidaire. Voilà, essayer de recueillir la parole un peu partout pour questionner des personnes différentes, en fait.
Vous serez à même aussi, sur tous les secteurs du Diwa, à être présent et à organiser aussi des rencontres avec
oui.
la population. Donc,
oui.
Et vous avez établi déjà une échelle de date ?
Oui, je ne les ai pas toutes en tête.
Mais ça va être dans le trimestre à venir.
Voilà, ça va être dans le trimestre à venir. On va communiquer aussi via la presse et tout ça pour que les gens ne se sentent pas surpris, qu'ils comprennent en fait pourquoi on vient leur poser des questions. On a essayé de travailler ensemble aussi avec les autres associations qui travaillent sur la vie sociale pour pas qu'il y ait trop de doublons, parce que voilà, aussi de pas être trop intrusif dans la vie de chacun, quoi. et travailler en partenariat pour voilà, collecter. Et il y aura des restitutions, en fait. Tout ce travail d'oreille, d'écoute qu'on aura eu pendant 3 mois, là, entre avril et juin, et ben, des restitutions seront programmées. On n'a pas encore les dates, mais à la rentrée de septembre.
Il y aura donc ce projet social. Est-ce que vous avez quelques pistes déjà sur les enjeux ?
Sur les enjeux, c'est difficile de s'avancer. La question du logement était déjà très prégnante la dernière fois. Vraiment, c'est difficile. C'est difficile de trouver des logements à l'heure actuelle, aussi bien à l'achat qu'en location. C'est vrai que voilà, le prix aussi, ça, ces dernières années, ça a pas mal augmenté, donc c'est compliqué. Et on sait très bien en fait que le logement participe vraiment. Quand on a des bonnes conditions, quand on est bien logé, et ben ça facilite quand même la vie au quotidien. Et voilà. Alors nous, on peut pas trop y répondre en tant que espace social, parce que c'est pas nous qui portons des projets immobiliers. Par contre, ce qu'on va faire dans les 2 prochaines années, c'est aller un peu à la rencontre des gens pour réfléchir à nos logements et au logement aussi de demain, c'est-à-dire quand on sera senior, de réfléchir aussi à un mieux vivre ensemble pour, à l'étape de nos fins de vie et tout ça, de construire peut-être des logements. Alors, pas forcément de la coloc, mais peut-être des habitats partagés où il puisse y avoir encore du lien social et de faciliter l'intergénérationnel aussi. Et voilà, on va bosser sur ça, l'espace social. En fait, on ouvre un dossier là et où on aimerait bien, en fait, là, on ira vers, on créera des cafés paroles où on va aller vraiment vers les habitants un peu partout sur le territoire sur cette question du logement. Et de comment on s'imagine habiter dans quelques années.
Animatrice dans la cohabitation solidaire, cela consiste à aller au-devant de locataires, de personnes qui sont en besoin de logement. Et est-ce qu'il y a aussi d'autres aspects à prendre en compte dans cette cohabitation solidaire ? Je parle des services autour ou du voisinage. Est-ce qu'il y a un travail aussi ?
Alors en fait, il y a une charte qui est signée par les hébergeurs. En fait, c'est une charte tripartite. À chaque fois qu'il y a une cohabitation qui se met en place, il y a une signature de charte qui engage l'hébergeur, l'héberger et moi, et l'espace social. Du coup, ça permet vraiment de dire ce qu'on peut faire et pas faire. C'est-à-dire, dans ce cadre de cette cohabitation solidaire, les gens ne sont pas chez eux, ce n'est pas une colocation. C'est vraiment, les hébergés sont chez l'hébergeur. Et dans ce cadre-là, ils doivent respecter les besoins, les règles, en fait, de la personne. Ce qui est aussi un facteur de rassurer les personnes qui auraient l'impression que l'héberger peut faire ce qu'il veut. En fait, non. Il y a vraiment du respect à avoir par rapport à la personne qui accueille. Et du coup, la signature de cette charte engage à respecter tous les principes de cohabitation.
Est-ce qu'il existe un partenariat susceptible auprès des bailleurs sociaux ?
Alors, on peut travailler avec DAH, qui est le bailleur social principal du secteur. Mais il faut que DAH autorise le locataire à pouvoir faire de la cohabitation solidaire. Voilà, il faut demander l'autorisation, ce qui est bien normal, avant de pouvoir faire ça. Mais c'est tout à fait possible. Il faut juste obtenir l'accord de DAH.
Oui, parfois j'entends des personnes se retrouver avec des logements très grands pour une personne. Et donc, il y a peut-être aussi cette possibilité d'accueillir d'autres colocataires, en gros.
C'est ça. C'est l'idée, c'est justement, face à la pénurie de logements, et ce que rappelait Aurélie, la hausse des loyers et de la précarité énergétique, qui est quand même aussi un phénomène assez répandu sur le territoire. L'idée, c'est justement de pouvoir optimiser les logements. Et donc, les gens qui ont des logements trop grands pour eux, il faudrait qu'ils acceptent de pouvoir accueillir quelqu'un qui viendrait juste un petit temps les aider à mieux habiter leur grand logement.
Je pense que ce n'est pas un obstacle. Hein. Beaucoup de personnes souhaiteraient peut-être partager, mais l'obstacle, justement, c'est cette fameuse autorisation hein, du bailleur social qui permette cet état. Et puis, il y a aussi, donc, comme vous le souleviez, Aurélie, cette gentrification hein, de l'habitat, que ce soit sur le haut ou le bas du bois. Et est-ce qu'il y a... est-ce qu'il existe une je ne sais pas si on peut parler d'enquête ou d'inventaire du bâtiment, du logement sur le Haut-Diwa, à savoir s'il y a des possibilités encore à développer certaines, peut-être d'autres dispositifs.
J'en ai pas forcément connaissance, mais peut-être que d'ouvrir ce dossier-là et de faire un peu un état des lieux en allant vers les habitants, peut-être qu'effectivement... on pourra mieux cibler, mieux repérer, en fait. Oui.
Et bon, ça, c'est encore autre chose.
Oui.
Par rapport aux réseaux sociaux, bon, c'est ce que on peut dire ce qu'on en veut, mais il y a quand même des sources de renseignements. C'est une inquiétude de part de pas mal de gens de se retrouver avec des personnes en camion ou dans des habitats légers. Et donc, est-ce qu'il y a aussi un travail à accomplir pour confronter ces deux peurs, enfin, ces deux états. Hein. Donc, puisque d'évidence, il n'y a pas de logement, mais ce sont des personnes qui sont peut-être installées et qui exercent une activité professionnelle, mais qui n'ont pas d'autre choix que de vivre soit en camion ou alors dans de l'habitat léger. Il y a tout un travail. Et quels sont les partenaires ou les structures collectives qui peuvent aussi interagir pour essayer de trouver des solutions?
Il y avait un travail qui avait été fait sur l'habitat léger par l'espace social, d'organisation de tables rondes et tout ça pour connaître aussi le cadre légal. Voilà. C'est pas moi qui l'ai porté, moi je suis arrivée il n'y a pas si longtemps. Ça reste très prégnant, effectivement. On a quand même beaucoup de personnes qui viennent travailler sur le territoire. Qui font les saisons, les vendanges, la taille des vignes et voilà. Et du coup, effectivement, les personnes à mettre autour de la table, c'est souvent les communes. C'est les communes qui sont responsables, en fait, par rapport à l'habitat léger et la possibilité d'accueillir et tout ça. Et oui, c'est quelque chose qu'il faut travailler en permanence, en fait. C'est pas acquis. En plus, voilà, les conseils municipaux, ben, on a bien vu, ça change aussi. Donc, les élus qui arrivent sont pas toujours au courant et tout ça. Donc, je pense pas que l'espace social ira à nouveau. Elle a vraiment travaillé pendant un temps sur cette question-là. Là, maintenant, on va parler plus du logement et de l'habitat des seniors, on n'est pas sur cette thématique-là, mais les gens qui sont ou qui rencontrent des difficultés et tout ça sont les bienvenus quand même de se présenter à l'espace social, parce que on avait travaillé dessus et on peut informer et voilà, un peu plus.
Je vous remercie toutes deux, Marion Perrier et Aurélie Charras, d'être venues sur Heure du Bois pour nous parler donc du renouvellement du projet social dans un premier lieu et de la cohabitation solidaire avec ce rendez-vous du 28 mars à 14h à l'espace social et culturel du Bois dans la salle communautaire. Et je vous souhaite une bonne soirée.
Merci.
Merci.
Au revoir.
I'm not going anywhere. Ground soft and damp. I'm not going anywhere. My chest is shaking. Down the hill. people walk their dogs. Should have brought my hat and frowning. Three different airplanes at the same time. Small earthquakes in the sky. Small earthquakes in the sky. Small earthquakes in the sky. Everything's unreal. Everything's unreal. Everything is unreal. I'm not going anywhere. I'm not going anywhere. Stay here with you.